Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Alors, effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait l'épisode. Désolé pour cette attente interminable. Je sais que vous êtes sur vos applications de podcast à vous dire, mais quand est-ce qu'ils vont sortir l'épisode? Et voilà, on est là. Désolé de ce petit retard, mais donc on est épisode pour les news d'avril 2024. Et comme d'habitude, bah, nous sommes avec Alex. Salut Alex!
Salut Patrick, salut tout le monde, et je suis super content de revenir et oui, effectivement, un grand désolé pour ce retard. Je crois que aussi bien toi que moi, on s'est fait un peu déborder par le boulot et c'était dur de trouver de la bande passante pour Double Slash, mais on en trouve et on est là, donc c'est cool.
Ah oui, complètement. Moi, j'étais complètement débordé. Je vois plus le jour depuis quelques semaines, donc c'est un peu chaud. On fait un petit sommaire, je te laisse faire.
Allez, un petit sommaire où on va parler de Node, on va parler du documentaire de Node de nos amis de chez c'est Honeypot, je crois, c'est ça. On va parler de Laravel, on va trouver aussi du drag and drop des solutions des librairies qui sortent. Qu'est-ce qu'on va aborder encore? On verra aussi beaucoup de choses. Une conférence de est-ce qu'on a besoin d'une SPA, des vidéos, okay. des liens de vidéos qu'on a trouvées qui étaient super intéressantes. Donc, un petit sommaire un petit peu éclairé. On va partir un peu dans tous les sens, mais très intéressant, très intéressant. On attaque tout de suite peut-être, alors je l'ai annoncé dans le sommaire, mais dans la série des documentaires en fait, où la Honeypot, donc c'est une chaîne YouTube, ou je ne sais pas si c'est que une chaîne YouTube ou si c'est un site internet, mais en tout cas, ils ont sorti leur version de Node.js, où en fait, le concept de ces émissions et de ces documentaires, en fait, c'est de prendre une techno, donc ils ont fait React, ils ont fait Vue, ils ont fait Ruby and Rails, et là, de la même manière, il y a le documentaire sur Node, qui va retracer en fait toute l'historique de Node.js. Et donc celui-ci est sorti, il est disponible sur YouTube, on vous mettra le lien évidemment. Intéressant, ouais. Et on apprend en fait toute la genèse du projet.
C'est Honeypot, je crois que c'est une chaîne YouTube, il me semble. Ouais, documentaire super intéressant à chaque fois sur des technos qui ont un petit peu changé la face du web, on va dire, en quelque sorte. Et donc Node.js fait partie de ça. Avec pourquoi avec le créateur, pourquoi ça a été créé, etc., et comment ça a évolué jusqu'à maintenant. Donc toujours super intéressant. Et, donc il y a le lien. Je vous encourage à aller le voir.
Et peut-être que demain on verra un documentaire sur Bun et sur Deno et sur tous ces runtime JS qui sont encore aujourd'hui encore un peu récents, mais potentiellement. Demain, il y aura un documentaire sur ces nouvelles techno et ils nous expliqueront la genèse du projet.
Carrément, ouais. Et donc, pour fêter, ça n'a rien à voir avec le documentaire, mais ils ont, dans la foulée, Node.js a... Enfin, dans la foulée. Node.js a enfin un nouveau site internet, site qui était quand même assez vieillissant pour une techno qui est open source comme ça. Donc, ils ont annoncé ça, c'était le 19 mars, nouveau site internet. Et est-ce que tu sais avec quelle techno il a été fait?
Non, vas-y.
Avec PHP, bien sûr. PHP.
C'est bon. Non, sérieux?
Non, avec Next.js.
Ok. J'étais là. Non, les gars, ils n'ont pas pu faire ça quand même. Ça se tient. Ok, cool. Et grosse évolution.
T'as tout un article sur comment ils ont fait évoluer le site, quelle techno ils ont utilisé. Donc, évidemment, Next.js avec, je crois, c'est Vercel. Et ils ont fait un storybook, ils ont fait un Figma, ils ont fait un design system et tout ça. Donc il y a un article super intéressant qui voilà à lire. C'est peut-être dans Top. Le deuxième. Je sais pas si t'as le lien sous la main.
Ouais.
C'est celui-là, ouais. Ouais, c'est celui-là.
Exactement.
Voilà. Il y a tout le process, comment ils ont évolué, le temps que ça a pris, tous les outils, tout ça. Donc, pas mal. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le site était vraiment un peu dur, quoi, un peu hard.
Ouais, après, le plus important, moi je pense surtout,
C'est la doc.
c'est la doc, exactement.
C'est clair.
La doc, c'est on, voilà, on le dit assez, on le dit tout le temps, mais c'est clé, quoi.
La doc n'a
Donc,
pas beaucoup changé,
par contre, ouais,
malheureusement.
la doc n'a pas changé, mais ça, c'est le jeu, tant pis. Mais allez voir, allez voir ça, c'est quand même joli, c'est plutôt bien fait, classe, quoi,
Ouais, c'est clean,
classe.
c'est clean. Yes.
Allez, on passe sur un retour de. Bah, toujours, on va
Alors
rester dans ce runtime un peu JS avec Bun, en fait, qui vient avec un nouveau plugin qui nous permet de faire des composants, des macro-composants. C'est quoi exactement ça?
ouais, alors avant qu'on parle de ça, il y a une grosse nouvelle hein, quand même concernant Bud en fait. C'est la version 1.1 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et
Ok.
qu'est-ce qu'il y a dans cette version? Eh ben en fait nos auditeurs là qui utilisent Windows pour développer, je suis désolé pour vous, hein, mais bon parfois les boîtes nous imposent d'utiliser Windows. Et ben en fait Bun est enfin disponible pour Windows. Voilà.
Ok.
Donc
Ah, parce que pour
et
l'instant, en
ouais.
fait, jusqu'à maintenant, tu ne pouvais pas utiliser Bun sur.
Non.
Ok. D'accord.
Non, Bun n'était pas disponible sur Windows et avec la version 1.1. Bah ça y est, enfin Bun est utilisable sur Windows, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir utiliser Bun et gagner un petit peu en performance, en vitesse de développement, etc. Tout ce que tu veux. Après bon, voilà. Bon, et après il y a plein de nouveautés tout ça. Alors, en fait, à chaque version de Bun, il devient de plus en plus rapide. Enfin, il l'améliore, donc c'est incroyable. Donc, enfin moi perso, je l'utilise. Je sais pas si toi tu l'utilises en dev, mais moi je l'utilise beaucoup en développement.
Non, j'ai pas encore passé le cap parce que j'ai beaucoup de projets qui sont ouverts et avant Bun était encore trop en prémisse et j'ai commencé à mettre tout mon environnement et je t'avoue bouger un environnement de dev comme ça sur le gros projet j'ai pas trop envie. J'aurais plutôt envie de tester sur des petits projets avant de tout lâcher. Par contre, tout le monde me dit que en termes de vitesse d'exécution, d'installer toutes les dépendances ou les choses comme ça, c'est juste hallucinant, quoi. Et c'est vraiment notoire. Donc, non, j'ai pas encore joué avec Bun, mais un
Ouais,
jour, je le ferai.
après tu peux juste l'utiliser en remplacement de Node.js en faisant juste un bun dev ou un truc comme ça. En fait, comme l'API est totalement compatible avec Node, tu n'as rien à faire. Même si tu ne veux pas installer le package tout ça, tu peux déjà le faire tourner comme ça avec
Mais
en
par
mode
contre,
dev.
est-ce que je peux pas introduire en fait des erreurs? Parce que mon runtime en prod, de toute façon, il sera sur Node, ça c'est sûr. Mais le
Quand
fait
tu.
de faire du dev
Ouais.
sur Bun et après de pousser en prod sur du Node, est-ce que ça peut pas induire en erreur ou alors c'est peut-être une question bête, mais tu vois, moi
Non, t'as
j'ai
raison.
peur
Non,
de
t'as
ça en
raison.
fait, tu vois.
Non, en fait, par défaut, Bun est full compatible avec Node.js de base.
Ok.
Après, t'as une API interne à Bun qui rajoute des choses. Donc, tant que tu n'utilises pas l'API de Bun pour faire des choses spécifiques qui sont liées à Bun, ça fonctionnera avec Node ou avec ce que tu veux.
Ok. Ouais,
Mais ça, en
plus
fait, tu peux
intéressant.
l'utiliser progressivement, en fait, tu vois. Tu peux l'utiliser juste comme ça, en remplacement de Node avec un bun dev ou un truc comme ça.
Ouais.
Ensuite, effectivement, tu peux installer les packages si tu as envie. Et après, tu peux commencer à utiliser l'API spécifique, comme le. Il y a plein de choses qui sont déjà natives, en fait, dans Bun qui ne sont pas dans Node. Après, Node, c'est très bien. Hein. Node, ça reste un projet open source, etc. Ça n'a rien à voir, mais Node n'est pas moins bien que Bun. C'est juste que c'est une nouvelle runtime.
Ok, tu vois, j'étais un peu frileux, je voulais vraiment pas péter, mais ouais, ce que tu dis, ça se tient totalement, totalement. Allez, on revient justement sur pré-render macro. Pour
Ouais.
le coup, qu'est-ce que ça nous amène de plus pour ce plugin en fait, qu'est-ce qui nous amène?
En fait, avec Bun, tu peux faire des plugins comme ça. Et en fait, voilà, j'ai mis deux plugins qui permettent, pour donner un exemple, en fait. Donc là, c'est pour rendre du JSX directement par Bun, en fait, avec ce plugin. Donc, t'as pas besoin de compiler, etc. Donc, il est capable de rendre des components directement, dynamiques et statiques. Donc, il y a des exemples. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que t'as pas besoin de compiler quoi que ce soit, ou de, tu vois. Donc tu mets juste le code comme ça, il est capable de le compiler et de le rendre, en fait.
Direct. Ok.
Tu vois? Donc ça, c'est pas mal. Et j'en avais un deuxième, en fait, qui est pareil, qui est capable de rendre du Svelte, en fait, directement. En fait. Donc, pareil, c'est donc tu as des components d'applications web qui sont rendues par Bun directement par le serveur sans avoir à compiler quoi que ce soit dans ton navigateur ou de rendre un bundle, etc. Donc ça, c'est
Ok.
un exemple vraiment de plugin, tu vois, de capacité en fait de Bun pour voilà, tu vois, c'est ça en gros la différence avec Node.js, c'est qu'il est vraiment en fait moderne et il est adapté pour les applications, tous les langages qu'on utilise, du Vue, du Svelte, etc.
Des quicks,
Donc il y a
des
pas mal
trucs
de
comme
choses
ça.
intéressantes comme ça.
Ouais. Mais parce que il est beaucoup plus rapide,
Non, parce qu'il a été pris,
parce qu'il
parce qu'en fait,
permet
d'office, il
de faire
a,
ça. Ok.
ouais, il a choisi en fait le dev, je sais plus comment il s'appelle, de rendre compatible JSX d'office, etc.
Ouais,
Plein de choses
d'inclure,
où
on
tu n'as
va
pas
dire,
besoin d'installer.
nativement.
Ouais.
Ok, d'accord.
Et c'est ça la
Puissant.
grosse, tu vois, différence avec Node.
Ok. Pour le coup, tu vois, moi qui suis encore extérieur à Bun et qui n'a pas encore joué avec, tu vois, peut-être que je sous-estime la puissance et je viens en fait minimiser l'impact. Et la puissance de Bun, en fait, tu vois, pour l'instant, je le vois pas, j'arrive pas à le mesurer de manière vraiment tangible, de dire, ok, c'est une grosse évolution, quoi. Et en fait, avec tous ces exemples que tu me montres à chaque fois, je comprends un peu mieux toute la puissance et
Ouais.
l'envergure, en fait, et comment potentiellement. Bah, ça peut amener une grosse évolution et même un schisme, voilà, peut-être pas un schisme, mais en tout cas une révolution majeure dans la manière de coder dans le runtime de JS, quoi.
Ah oui, ça change.
Ok.
Après, le revers de la médaille, c'est que j'avais vu un article là-dessus, comme quoi si tu commences à vraiment te lier à Bun, bah tu perds cette compatibilité entre Node et Bun, etc. Donc tu deviens dépendant de Bun et donc voilà. Mais bon,
Ouais,
après c'est
après,
un débat quoi.
mais non, mais après, c'est aussi du bon sens, tu vois. Enfin, moi, quand tu me dis ça, j'ai l'impression d'entendre un mec qui me dit, ouais, mais quand je fais du Java, en fait, je suis tributaire de l'environnement Java. Bah ouais, mais mec, enfin, tu vois, c'est par définition, en fait. Pourquoi tu te sens prisonnier, quoi? Tu sais, ça, c'est comme la guéguerre à deux balles entre les Mac et les PC, tu vois. Et le mec, il dit, ouais, mais en fait, Apple, c'est tout un écosystème, i13, et tu peux utiliser que des applis Mac. Mais mec, sur Windows, c'est pareil. Si ton appli, elle n'est pas faite pour Windows, elle marche pas, quoi. Enfin, c'est exactement pareil. Du coup, j'ai un peu du mal à comprendre ces arguments-là, ou peut-être il me manque des infos, quoi. Mais ouais, après, oui, tu fais un choix, oui.
Ah ouais,
Après,
c'est clair.
c'est à toi de faire le bon choix avec qui tu viens te marier, quoi, clairement. Donc, yes. Allez, on
Yes.
déroule. Sarah Drasner, qui
Oui,
revient
chez
nous
Google.
parler d'Angular. Elle est partie chez Google? Non.
Normalement, ouais, elle est chez Google. Ouais.
Ok,
Pour,
j'étais persuadé.
on cliquera sur la
J'étais.
bio, il me semble. Hein.
Exact, exact. Parce qu'elle était pour le coup, pendant longtemps, elle était développeur, ingénieur, management, mais chez Netlify, je crois. Et
Ouais,
apparemment,
c'est possible.
elle a bougé chez Google. Elle vient nous parler d'Angular.
Bah, en fait, il y a eu la NG Conf 2024, ouais, qui concerne Angular. Et ils ont fait une grosse annonce, c'est qu'en fait, ils mergeaient deux frameworks, en fait, Angular et Wiz.
Ok.
Et tu vas me dire, mais Wiz, c'est quoi
C'est exactement la question
Wiz?
suivante. C'est quoi Wiz?
Et ben, a priori, moi, j'étais comme toi, je connaissais pas.
Ouais.
A priori, j'ai fait ma petite recherche et il y a très peu d'infos sur Wiz, mais en fait, c'était un framework interne à Google, basé sur Angular. Voilà, qui était vraiment utilisé en interne. Donc, ils l'ont fait évoluer avec des choses qui sont voilà, en supplément, des fonctionnalités supplémentaires. Et ils ont décidé en fait, de merger les deux, en fait.
Ok.
Angular et Wiz. Et par la même occasion, de rendre open source Wiz, plus ou moins, puisqu'en fait, il va être mergé dans Angular. Mais Wiz, jusqu'à maintenant, n'était pas open source. était utilisé uniquement en interne chez Google, et donc en mergeant avec Angular, bah, devient open source, etc. etc. Voilà. Donc, évolution d'Angular encore. Donc, grosse évolution en ce moment d'Angular. Hein.
Angular, ah ouais, ça bouge en ce moment. C'est exactement, là ils sont revenus avec la dernière version, avec un rebranding, avec ce concept des signaux pour gérer toute la partie réactivité.
Simplicité, ouais. Beaucoup de simplicité. Ils ont simplifié en fait les components. En fait. Maintenant par défaut, les components sont beaucoup plus simples qu'avant, il n'y a plus besoin de faire des modules, etc. Ils simplifient énormément Angular. On sent que là ils ont remis des billes et ils ont envie qu'ils poussent à fond Angular quoi, chez Google. Donc.
La renaissance, mais on en avait déjà parlé un peu de.
On a déjà parlé, mais c'est en ce moment, tu vois, ils en parlent tout le temps en fait.
Ouais. Après, toute façon, on va pas redire ce qu'on avait déjà dit sur le marketing, mais aujourd'hui, ça fait partie du jeu, c'est obligatoire. Donc, il faut évangéliser, il faut faire des confs, il faut faire de la doc, il faut créer des articles, il faut que ça buzz quoi, il faut que ça buzz.
Ouais. Yep. Ah. Et donc. Bah derrière, on a AnalogJS, qui est l'équivalent de Next.js en Angular, donc qui a sorti la version 1.0.
Et, tu veux dire l'équivalent de Nuxt sur Vue, ou de Nuxt, Next ouais, sur React, et Analog voilà, sur AnalogJS sur Angular, qui est en fait, on pourrait dire, le méta-framework au-dessus de la librairie pour gérer tout ce qui est toute la partie
routing, SSR, donc, automatique,
et rendu serveur. Pour la simplicité.
On en avait déjà parlé en fait, donc là c'est la version 1.0 officielle, donc comme tu peux voir, il y a Vite, il y a Nitro.
Yeah. Nitro, Nitro les gars, Nitro. Ça fait plaisir.
L'équipe Nuxt évidemment, voilà, il y a tout le système de routing, etc. Mais surtout, bon, ça c'est super, mais ce que je voulais te faire voir en fait, c'est la prochaine évolution qui m'a fait un petit peu marrer en fait. Si tu descends un petit peu dans la page, what next, tu vois, et regarde le code ici. Vas-y, attends. Juste là, ce code-là que tu viens de
What's
voir.
What's next?
À quoi ça te fait penser?
Alors, moi, je suis désolé, mais moi, quand je vois... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas du tout de Angular, donc je ne connais pas. Par contre, moi, quand je vois ça, ça me fait fortement penser à Vue.
Et voilà.
Mais beaucoup, 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 beaucoup.
Quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer.
Ok. Non, c'est clair.
Des fichiers .analog, en fait, qui sont... vraiment identique à des fichiers vus. Voilà, avec
et alors, pour ceux qui ne nous voient pas sur la vidéo, en fait, on a vraiment les trois parties distinctes, c'est-à-dire la partie script, la partie template et la partie style, avec trois balises très, très distinctes. Et ça, c'est typiquement du vu, avec le tag langage TS comme dans vu. Donc ouais, on retrouve la composition API pour ceux qui font
avec
du
signal,
3,
tu vois, signal c'est... comme l'interactive. Non mais c'est fou en fait.
Ouais.
En parlant de signal vite fait, je viens d'utiliser Preact Signal, qui est le truc un peu de base qui a été créé, qui pèse quasiment rien en fait dans une application. Enfin c'est pas une application, c'est dans un site web en fait. Et c'est vraiment top. Voilà.
En fait, c'est facile système, à utiliser, c'est joli.
C'est hyper simple. Tu l'installes. Bah, en fait, tu as signal, c'est ta variable en fait, qui est réactive. Ensuite, tu as un effect. Voilà, et c'est comme dans Vue, comme dans React, tout ça. Et tu peux l'intégrer à un code JavaScript classique. Ça pèse que dalle, 3-4 kilooctets. Et ça te facilite les choses pour faire des choses un peu complexes en JS sur un site web, sans forcément faire une web app. Donc voilà, Preact / signal. Si vous voulez jeter un œil, c'est pas mal.
Nice, nice, nice. Et allez, on revient sur du DevTools avec.
Ouais.
Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous utilisez déjà Copilot ou en tout cas un assistant, on va dire, pour coder basé sur l'IA. Moi personnellement, je l'utilise depuis longtemps, Copilot, et plus on l'utilise et plus il est malin et plus il nous aide vraiment. Parfois même, c'est bluffant. Il continue à faire de la merde totale, hein, des trucs complètement what the fuck.
Aussi, c'est bluffant.
Parfois, il dit des trucs totalement what the fuck, mais il y a quand même des fois où il sort des trucs lunaires et tu fais waouh, là c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et Là, on a une vidéo de Patrick Brosset qui vient nous expliquer Copilot avec Edge et le DevTools.
Ouais, c'est ça. C'est une petite vidéo. Je suis tombé dessus il y a 2-3 jours. C'est une petite vidéo. Il explique comment dans Edge, donc le navigateur Microsoft, qui est basé sur Chromium, comment on peut utiliser Copilot dans le navigateur pour débugger en fait via le DevTools. Donc voilà, en fait le système de chat qui est sur le côté est capable de lire le DevTools, l'erreur, et après il va t'aider à analyser, etc. Donc
D'interpréter
intéressant. Je savais
l'erreur.
pas que ça existait, donc c'est pas mal.
Ouais, nice. À savoir que aussi, il y a possibilité en fait dans VS Code, pour ceux qui utilisent VS
Ouais.
Code, aujourd'hui, tu peux en fait lui poser des questions, tu peux chatter avec lui et il peut injecter les erreurs. Enfin, tu lui injectes le message d'erreur et tu dis, vas-y, explique-moi à quoi ça sert. Comment tu vas gérer ça? Et c'est plutôt bluffant les réponses, c'est super intéressant quoi. Donc, mais là
Ouais.
c'est directement intégré dans le DevTools,
Dans le navigateur. Ouais, dans le
Edge.
DevTools, ouais.
Trop bien.
Ah, c'est pas
Intéressant.
mal, c'est pas mal. Mais de toute façon, oui, c'est Copilot dans VS Code ou dans PHP Storm, parce que j'utilise les deux et je l'ai dans les deux. C'est hyper efficace. Et non seulement il y a les suggestions, etc., mais tu as aussi des possibilités de simplifier le code, il peut t'expliquer le code, etc. Donc il y a plein de choses qui sont disponibles, en fait, via Copilot. Donc c'est intéressant d'utiliser quand même, je trouve.
Nice. Autre solution, c'est quoi Solito? Là, j'ai vu, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. J'ai pas compris, mais
Solito,
j'avoue, j'ai pas
c'est
lu.
un framework. Ben, en fait, c'est un framework qui est, si tu peux dans le welcome, ouais, c'est un framework qui mixte React Native dans Next.js et qui te permet de faire des applications cross-platform. En fait. Voilà. Alors après, j'ai pas testé encore, mais voilà, c'est un projet qui est, je crois, encore un peu jeune, mais à suivre, peut-être à tester. Mais ouais, ça te permet de faire une application native, enfin cross-plateforme comme ils disent, puisque maintenant avec React Native, tu peux faire du React Native Web aussi. Donc faire un projet qui est capable de tourner sur du web ou sur de l'application mobile. Et donc là, c'est un peu ce système-là, cross-plateforme, mais avec le système de Next.js, avec le routing, etc. Donc pas encore testé, mais ça me semble prometteur, en tout cas pour les personnes qui ont besoin de faire des applications natives.
Ouais, c'est toujours l'éternel grand débat sur est-ce qu'on fait du natif, est-ce qu'on fait du web. On a connu un peu le drama. Non, mais c'est vrai, tu vois, avec le risque qu'on a eu de se faire sucrer les PWA sur iOS, je sais plus, 17.4 ou je sais pas quoi, là, sur la mise à jour. Et au final, ils ont fait machine arrière. Mais. Ce qui veut dire que demain, ils restent quand même maîtres de leur techno. Et s'ils décident que le web, c'est mort et ils veulent faire tout en natif, bah, ils peuvent le faire, quoi. Donc, ces solutions hybrides, peut-être, elles amènent une grande liberté. Après, il faut voir, comme tu l'as parfaitement dit, est-ce que la viabilité vu que c'est un projet un peu neuf, est-ce que ça va réussir à pousser? Est-ce que en termes de perf, on est bon? Est-ce qu'on a besoin de la perf pour faire ce genre d'applicatif, tu vois? Si c'est juste pour faire, pas une to-do list, mais voilà, du rendu web, on va dire classique, sans avoir du calcul de ouf, ça peut largement suffire. Comment on fait toutes les mises à jour, tout ça, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Vraiment. À
Moi,
tester,
je
quoi.
suis pas spécialiste de React Native, mais je sais que, enfin, tu vois les choses que font les développeurs React Native, c'est assez bluffant en fait. Ils font des choses très très poussées. Je pense que tu peux aller très très loin en React Native, et pour moi, la question, elle est vite répondue, j'ai envie de dire. Si je devais faire une application native, je ferais du React Native. Je ferais pas de code comment ça s'appelle, Apple là,
iOS,
le code Apple.
Swift
Ouais,
ou du
Swift
Kotlin.
ou du Kotlin, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas le temps d'apprendre et puis ça m'intéresse pas. Par contre, c'est hyper accessible, React Native. Là, en fait, si tu veux faire une application avec React Native, c'est pas très compliqué en soi. En fait, le plus compliqué, tu sais ce que c'est, en fait, quand tu fais une application native, c'est de la soumettre au store, en fait.
Ouais.
Le processus est tellement complexe avec les clés, machin, bidule, envoyé et tout, c'est hyper complexe. Les gens s'arrachent les cheveux là-dessus.
Ouais.
Et c'est ça qui est compliqué.
C'est pas très open, tout ça, moi, je trouve.
C'est open,
ouvert.
Mais la procédure, elle est tellement complexe que il
ouais.
faut une clé, machin, développeur et tout. Enfin, et ça prend
après,
pas de temps.
Sans rentrer dans le truc parano, ok, tu viens sécuriser ton process pour éviter qu'il y ait des failles de sécurité, tout ça. Par contre, les boîtes qui. En fait, en créant une espèce de marche à l'entrée pour rentrer, pour développer. Pour soumettre ton applicatif, en fait, une fois que tu es rentré, c'est super, c'est facile, c'est fluide, mais ça met aussi un frein à l'évolution, à faire bouger un peu les paramètres, parce que quelqu'un qui a fait l'effort, lui, il se dit non, non, c'est pas juste. Si on vient modifier les règles, après ça devient hyper facile, tout le monde peut le faire. Donc il y a une sorte de barrière à l'entrée qui est non négligeable quand même et qui profite aux personnes qui ont fait l'effort. Et une fois que les mecs ils ont fait l'effort et ils sont dedans, ils vont tout faire pour garder l'espèce de bulle dans laquelle ils sont, quoi, et essayer de freiner tous les nouveaux entrants. Sur la simplification, alors que le web, tu vois, on en parlait encore tout à l'heure sur Angular, tout est fait pour simplifier, 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 mais je suis quasiment
ouais.
sûr que le process pour soumettre ton applicatif, lui, il n'a pas été simplifié, quoi. Tu vois,
Ah
et
non.
c'est un petit peu ce que je reproche au gros, souvent, en fait, pour rentrer, tu as tellement une barrière à l'entrée que, vu que les développeurs ont fait l'effort C'est pareil avec Amazon, tu vois, pour apprendre leur système ou Azure. Voilà, tu as appris le système, tu as appris comment, tu as passé des heures et des heures à te former à leur plateforme. Et donc, si demain tu dois changer de plateforme, ouais, putain, il faut tout réapprendre. C'est super dur. Donc, non, on reste et on continue, tu vois. Et c'est là où moi, je me sens, pour le coup, je me sens beaucoup plus captif de ce genre de système-là. Que
Ah ouais,
d'autres.
t'as...
Mais bon, c'est que mon point de vue,
Bah...
hein. Ce n'est que mon point de vue.
Non, mais pour nous, développeurs web, où on a une plateforme qui est ouverte, en fait, qui est disponible partout, parce que finalement, notre applicatif, c'est le browser, en fait. On a tellement l'habitude que ce soit facile, en fait, de publier un site, une
Ouais.
application de suite, que quand on se retrouve avec ce truc de soumission, etc.,
Ouais.
on n'a pas l'habitude, je pense. C'est
Ah
une
non,
question
non,
d'habitude.
non, on n'a complètement pas l'habitude. Et puis, tu vois, t'as ton client ou t'as quelqu'un où tu vois un bug, bam, tu le résous, tu déploies, et 3 minutes après, il n'y a
Ouais,
plus de
nous,
bug,
notre...
quoi,
Ouais.
tu vois.
Aujourd'hui,
Et
nous,
en
c'est tout
fait,
automatisé.
exactement, moi j'ai l'impression de revenir au temps du CD-ROM où, tu vois, c'était là, tu fais, mais non, c'est pas possible, quoi.
Non,
Donc,
mais je crois
ouais,
qu'il y a des trucs qui existent pour déployer tout ça. Il y a plein de trucs, mais bon.
peut-être qu'on ne connaît pas.
Bon, après.
Peut-être qu'on ne connaît pas. On admet.
Oui, on avait déjà eu des commentaires sur des personnes qui nous avaient dit que c'était possible de mettre à jour avec Flight, je ne sais plus quoi, etc. Mais... Bon, on n'est pas des spécialistes, donc on va éviter d'en parler. D'ailleurs, on avait parlé d'un épisode sur React Native, il faudra qu'on le prépare
Exactement.
prochainement.
Exactement. Allez, on parle de Remix qui
Un
passe.
remix, on avait parlé de remix il n'y a pas longtemps sur le fait qu'ils implémentent VJS avec le rendu client. Et donc là, ça y est, c'était juste, voilà, il y a eu un tweet comme quoi ça passait par défaut sur VJS. Alors VJS qui devient de plus en plus présent dans tous les frameworks, etc., qui devient même omniprésent. Ça me rappelle un petit peu l'époque de Webpack qui était un peu utilisé partout. Bah là, maintenant, c'est VJS qui est devenu vraiment le système de compilation par défaut de tous les frameworks qu'on utilise. Voilà. C'était juste une aparté.
Ça roule. Strapi, hashtag Cocorico, boîte française. Strapi qui passe en version 5 en bêta. Alors c'est pas encore officiel et c'est pas
On n'est pas
encore.
loin, on n'est pas loin.
On n'est pas loin. Qu'est-ce qui
Ouais.
amène la version 5 de Strapi. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne connaissent pas Strapi, c'est un CMS qui va vous permettre de gérer votre contenu et de donner accès à votre client aussi. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode dédié sur les CMS headless, on vous
Ah oui.
renvoie vers l'épisode headless ou sur les CMS headless où justement on fait un petit peu un tour d'horizon de tous les CMS possibles et Strapi en fait partie.
Ouais, Strapi. En plus, on avait fait un épisode sur Strapi avec Laurie.
Jim, ouais.
Jim Laurie, ouais. Donc à l'époque. Et puis, ouais, on a fait l'épisode sur les CMS Headless. Bah, Strapi 5, en fait, c'est une évolution. Alors, on n'en est plus au changement majeur, mais il y a des évolutions d'interface. C'est un système de draft, tout ça. Donc, ils ont fait évoluer le système de draft, de publication. Le bundler devient Vite aussi. Je suis désolé, on parle que de Vite ici. C'est ouf. La création de plugins devient plus simple aussi. Ça pêche un peu de ce côté-là sur Strapi, parce qu'ils ont un système de plugins un peu à la WordPress, on va dire. C'était un peu le but à la base quand ils ont fait Strapi, c'est qu'ils s'attendaient à avoir plein de plugins un peu comme WordPress et que le truc évolue comme ça avec tous les plugins. Mais ça n'a jamais pris de folie en fait. Il y a pas mal de plugins, mais ça, c'est pas, il n'y en a pas non plus 50 000. Donc là, ils ont fait une création de plugins qui est un peu plus simple. Aussi, et puis il y a gros changement majeur, c'est les réponses de l'API, le format de l'API, en fait, des réponses JSON ou
Ok.
GraphQL, mais GraphQL, ça bouge pas, mais réponses de JSON qui sont un peu plus simples, un peu plus clean, un peu plus, voilà. Tu disais que
Ouais.
sur,
Par contre,
voilà, sur,
ça c'est quand même pas anodin parce que si tu
non.
as câblé tout ton système sur la réponse, s'il change la réponse, toi, il va falloir que tu fasses l'effort de recâbler, de
Ouais.
recâbler tes réponses pour mieux les interpréter. Donc, potentiellement, c'est pas anodin comme,
Ouais, ça
comme
fait
évolution,
quand même
quoi.
un. C'est le seul truc qui fait vraiment des breaking changes si jamais tu utilises du format JSON et non pas GraphQL. Bon, tant pis, hein, si... Dommage pour toi. Mais ils ont simplifié, voilà, les réponses de l'API. Tu parlais dans l'épisode de CMS Atlas de. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le CMS que tu utilises habituellement, toi.
Directus.
Directus, tu
Directus.
dis, voilà, Directus, tu disais que les réponses de l'API étaient super simples, clean, etc. Bah, voilà. Là, ils ont fait un peu pareil. Ils ont simplifié, c'est clean, tu vois. Il n'y a plus
Ils ont
50 000
super
nœuds, etc.
inspiré. Ça marche? Nice.
Voilà.
Nice, nice. Un projet qui renaît de ses cendres ou quoi? WebAwesome.
Non. Non. Non, non, c'est pas du tout après. Alors, c'est les créateurs de Fontawesome. Oui, j'espère que vous utilisez plus Fontawesome depuis longtemps, parce que c'est quand même
Bah ouais, parce que
écrit les...
moi, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça revit ou quoi? Parce que Fontosom, c'était peut-être la première librairie qui a explosé avec tous les icônes.
Ouais.
Et donc là, en fait, c'est les fondateurs qui font autre chose et qui nous proposent quoi?
Il propose une librairie de web components. En fait, donc web component, composant web natif, hein, on n'a pas de React ou quoi que ce soit, c'est le langage natif JS des navigateurs. Donc on fait des components, c'est possible, oui, des web components, ça s'appelle. Et donc il propose une librairie complète de web components prêts à l'usage, comme on en a déjà plein, sauf que là c'est vraiment du web component. Voilà.
Natif, ouais.
Stylisé, etc., natif, etc. Donc, ils ont fait un quick starter pour ça. Ils ont récolté pas mal d'argent, plus de 400 000 euros, je crois, en gros. 423 000 euros, c'est énorme.
C'est beaucoup, ouais. C'est vraiment
C'est
beaucoup.
beaucoup, hein.
Ouais.
Et donc, tu auras une version gratuite, une version payante, je crois. Et puis, voilà. Projet qui semble intéressant. Et qui. Voilà.
Après,
T'en penses?
est-ce que moi, je suis assez. Alors, je ne vais pas dire sceptique, mais
Ouais.
je suis plutôt curieux de voir, en fait, ce full native, en fait, de ces web composants natifs évoluer. Parce que ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que beaucoup utilisent des frameworks JS pour faire du front. Et donc, toutes ces librairies de composants sont quand même orienté quand même beaucoup React ou Vue ou tu vois et j'ai du mal à voir l'espace que pourraient prendre ces web composants natifs même si dans la théorie, ça a l'air plutôt bien et plutôt clean parce que bah, justement, il n'y a pas, c'est totalement agnostique de framework et donc c'est plutôt intéressant. Mais je suis curieux de connaître la quote-part en fait de ces utilisations de librairies qui sont en composants purs quoi. Dans l'idée, c'est bien, mais
Ouais.
est-ce que t'es pas limité et capé en fait par, bah, par la taille du projet quoi. C'est-à-dire si ton projet il est trop conséquent, bah, tu vas tout de suite avoir besoin d'un méta framework un peu pour, bah, pour gérer ton routing tout seul, parce que tu vas pas gérer ton routing à la main, tu vois. Donc c'est toute la trouver le juste milieu entre bah, tes web composants, mais tes web composants, si tu dises que tes web composants, bah, c'est juste pour faire une seule page ou deux pages, c'est tout. Si tu as besoin de mettre du routing, tout ça, comment tu fais ça en natif sans framework? Tu vois,
Bah,
je sais pas si.
en fait, alors les web components, pas faire l'historique, mais pourquoi aujourd'hui on a toujours pas trop utilisé les web components, tout ça? Tout simplement parce que dans la doc, en fait, dans l'utilisation des web components, il y avait des choses qui étaient pas, qui ont mis du temps à être complètement intégrées dans les navigateurs. Et donc, ça a tardé, en fait, et ça a mis du retard, en fait, dans l'adoption, en fait, des web components. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a plein de librairies de web components qui sont disponibles. Tu peux les intégrer facilement. Et en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est pas forcément pour faire des applications web. C'est plutôt pour intégrer des choses dans des sites classiques, en fait. C'est-à-dire que si tu regardes dans les components, tu verras, il y a des carrousels, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu vas utiliser, parce que, en fait, quand tu fais un web component, tu crées un component. Et après, tu l'intègres comme un tag HTML, un div ou un truc comme ça. Et ben là, tu vas intégrer ton tag de ton web component directement dans la page web et ça va fonctionner, en fait. Sans compiler ou quoi que ce soit, en fait. Et en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est demain, ben, si tu veux faire un carousel, et ben, tu prends le web component carousel et tu mets tes éléments dedans avec, comme il faut le faire, suivant la doc. Et ton carousel va fonctionner, en fait. En fait, tu n'auras plus besoin de faire tout le montage, machin, etc. En fait, le truc, c'est d'avoir des components, des boutons, si tu regardes un peu les composants, tu verras, il y a plein de choses disponibles, des boutons, des switches, etc., qui seront, voilà, tu les intégreras directement dans la page web, dans ton framework, dans ton site PHP, n'importe quoi, et ça va fonctionner direct.
Okay.
En fait, c'est ça
Est-ce
ce qu'ils proposent, en fait.
qui t'évite en fait de gérer toute
Bah, la compilation, le
exactement.
tooling, tout ça. Ce qui est,
Ok.
d'ailleurs, on en reparlera à la fin, tu verras, par rapport à la tendance des développeurs back qui arrivent là. Mais ouais, enfin, ça fait un moment que les gens essaient de se débarrasser un peu de ce tooling, tout ce process de compilation, etc. Mais voilà, il y a plein de projets comme ça qui sortent. Et toujours pareil, comme on a dit pour Angular, ça simplifie les choses.
Et ouais, et ouais. Et toujours dans ce, super intéressant, et on va dire dans la même lignée, il y a une nouvelle librairie JavaScript pour faire du drag and drop, pour histoire de simplifier un petit peu les choses.
Ouais.
En quoi elle amène, on va dire, elle fait bouger les lignes, celle-ci. Elle est facile à implémenter. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'appelle
Pragmatique. Elle est très
pragmatique.
pragmatique.
Elle est très pragmatique, drag and drop. Pragmatique, drag and drop. Ok. Qu'est-ce qu'elle amène de plus, celle-ci?
Alors, elle est compatible avec, tu vois, React, Svelte, Vue, Angular ou JS normal, je crois. Donc déjà, elle est compatible avec beaucoup de choses. C'est les gens de chez ceux qui ont racheté Trello et qui font Jira,
Jira.
etc.
Ouais.
Atlassian, je crois que c'est ça, qui ont ce projet et qui l'ont rendu open source. Et ben en fait, il est assez simple à utiliser et il est très puissant en fait. Si tu vas dans les exemples, tout ça, tu verras. La doc est plutôt simple, ça s'intègre facilement et tu peux faire des choses assez poussées. Comme dans l'exemple, il montre draguer entre deux fenêtres de navigateur, etc.
Ah ouais.
Et c'est
Ah ouais.
très light, tu vois, c'est 4,7 kilobytes de base. Donc,
Ouais. Après, ce que je vois aussi, c'est que tu peux. Il est framework agnostique. Et donc,
aussi, ouais.
ça c'est quand même vachement bien. Parce que voilà, t'as pas le truc spécifique, t'as pas le bindé pour Vue, t'as pas le bindé pour React, tout.
Ouais.
Et c'est vrai que si c'est le même système qui est utilisé dans Trello ou dans Jira, pour le coup,
Ouais, dans les exemples là pour voir. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce qu'il dit en fait, c'est
ils ont quand même un gros background d'utilisation, quoi. Donc c'est
T'as vu
pas.
ça? Ça claque.
Ouais, non,
J'adore ça.
c'est toujours top, quoi. Par contre, si tu me dis que ça marche cross-fenêtre, ouais, c'est encore mieux, quoi.
Ouais, dans la vidéo là d'exemple, ils font voir, tu dragues une carte entre une fenêtre et une autre fenêtre. Alors après, évidemment, il faut faire des connecteurs, tu sais, parce que ça va.
Oui, bien sûr.
Forcément, il y a une synchro qui se fait entre les deux, mais en fait, tu fais waouh. C'est. Ouais, après, je sais pas si pour quel projet tu ferais un truc comme ça, mais moi, des drag and drop, j'en
Nice.
fais quasiment jamais, mais ça me fait toujours délirer en fait. Je trouve ça trop
Alors,
classe.
ouais, non, c'est quand même super classe. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, le drag and drop, c'est juste fou. Tu vois, moi, je me rappelle d'un projet où on bossait sur du texte. Et en fait, il y avait des morceaux de paragraphes de texte qui étaient déjà pré-remplis. Et en fait, la personne construisait sa réponse par rapport à des mots-clés. Et donc, on lui soumettait en fait des petits paragraphes et il construisait en fait sa réponse. C'était pour un logiciel de support client et il construisait sa réponse avec du drag and drop. Le jour où on a mis ça dans les mains de l'opérateur, il était comme un dingue parce que tu vas super vite, tu changes tes blocs, c'est très satisfaisant à l'utilisation. Et donc je comprends le côté
Ouais.
excitation de la solution parce que ça marche et c'est super satisfaisant quoi, clairement. Clairement.
Et si tu vas sur la doc là où tu étais, tu verras, il y a un tuto. J'ai regardé l'autre jour.
Tutoriel.
Tuto, ouais, qui t'explique comment faire un jeu d'échecs en fait, avec step by step en fait, comment bouger
Ah
la. Alors au début,
ouais.
c'est rien. Et après, step by step, il dit, tu fais ci, tu fais ça, machin. Et après, tu commences à bouger les pièces et tout. Donc c'est pas mal, c'est intéressant.
Et il
Faire un tuto
t'explique.
pour rigoler. Voilà,
Excellent.
tu vas commencer. Après, enfin, tu verras, après, il va te. En fait, il te fait mettre les. Ça s'allume où tu as le droit de bouger la pièce, etc. Tu vois. Enfin, c'est vraiment intéressant à suivre comme tuto si vous voulez passer, je pense, une petite demi-heure à faire un tuto pour voir comment ça fonctionne.
Excellent. Excellent.
Ouais. Voilà.
Allez, la suite. On bascule sur du Laravel avec un
Erd.
outil qui. Alors, on avait déjà parlé de Laravel Erd qui était peut-être encore
Au Mac.
en bêta, en je sais pas quoi. Et là, ça y est, c'est passé aussi sur Windows.
Bah c'est ça en fait, c'était pour Mac à la base. Et là, il est enfin dispo pour Windows. Et c'est cool pour Windows quand même. Ils ont Bun, ils ont Erd. C'est.
Ça y est.
Waouh! On va pouvoir s'éclater sur Windows. Non, mais. on se moque, mais
Oh,
bon.
tu
Moi,
trolles,
j'ai
tu
beau.
trolles. T'es
Non, je troll, mais. Je dois
c'est pas
dire
bien,
que.
Patrick.
Non,
Faut
mais.
pas dire ça.
Dans mon premier job de développeur à Lyon, en fait, quand je suis arrivé dans la boîte, on m'a filé un Windows dans la main. Et je n'avais pas le choix, en fait. Donc, je compatis. Et après, j'ai réussi à avoir un Mac un petit peu plus tard. Bon, d'autres diront, ouais, mais on peut coder que sur Linux, machin. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat.
Non.
Mais en tout cas, bah, désormais, avec Laravel Erd, vous pouvez avoir des environnements PHP facilement sur Windows. Voilà. Je vous installe tous les systèmes de mail, tout ça. Voilà. Pratique avec juste une
Ça crée en
interface avec
fait.
des clics.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Laravel Erd?
En fait, tu crées un site. Tu vas créer un site PHP, donc pour faire tourner Laravel, hein, normalement ça fonctionne avec tout. Et il va t'installer en fait Nginx, PHP, MySQL Redis. Après, t'as un système de mail pour choper les mails, tout ça, mail, je sais plus comment ça s'appelle. Et t'as un nom de domaine local qui s'accroche à cet hébergement et tu peux développer voilà en local
Donc c'est
facilement en
vraiment
fait.
tout ton écosystème,
Ouais.
Laravel, qui est
Ouais,
prêt à l'emploi.
PHP, on va dire PHP parce que ça marche avec tout normalement.
Ok.
Donc c'est pratique. Moi perso, j'utilise Dedev en local
D'accord.
pour tout ce qui est environnement PHP, mais ça c'est pas mal aussi. C'est plus simple à mettre en place. Et c'est
Nice.
vrai que sur Windows, il n'y avait pas des masses de systèmes pour faire tourner PHP, il me semble. Donc là, c'est un peu plus sympa.
Et je vois, il y a Melisearch, c'est top ça.
Mais
Rien à
ouais,
voir,
oui.
hors sujet total. Hors sujet total. Allez, on reste dans l'univers PHP avec WordPress, Make WordPress Core.
Ça, c'est
C'est
la
quoi?
doc, ouais. Alors, ça, c'est la doc de ce qui sort sur WordPress. La nouveauté, en fait, c'est la 6.5 qui est sortie la semaine dernière. Donc,
D'accord.
voilà, évolution, etc. Mais je voulais parler juste d'un truc, en fait, dans cette version qui a été officialisée, en fait. C'est l'Interactivity API.
OK.
Qu'est-ce que c'est l'Interactivity API? Alors, c'est une tendance qu'on a, et on en reparlera à la fin. C'est une tendance qu'on a de plus en plus dans pas mal de projets, c'est d'avoir, en fait, ça permet d'avoir, via des tags, des attributs que tu mets dans les éléments HTML, sans faire de JavaScript, de faire de l'interactivité. En fait, tu crées des éléments interactifs juste avec des attributs que tu vas mettre dans HTML. Et donc ça, il y a déjà une librairie qui est embarquée, et en fait, en fonction des tags qu'elle va trouver, eh ben, les boutons vont être cliquables et mettre dans un state, etc. Donc voilà. Donc en fait, il y a un système de states qui est créé, etc. Donc tout ça sans coder le moindre morceau de JavaScript, en fait. Donc c'est
Ok.
une tendance qui arrive de plus en plus au niveau du web. Et donc WordPress vient d'intégrer ça. Ils l'utilisaient déjà pour tout ce qui est panier, etc. dans WooCommerce. Et donc là, maintenant, on peut l'utiliser en tant que développeur et créer des choses interactives avec des states, etc.
Ok.
Donc tu vois, là, il y a des exemples avec DataVP Interactive. Tu commences à faire un namespace avec MyPlugin. Et après, Watch, tout ça, il y a tout un système d'attributs que tu vas mettre dans ton tag qui vont rendre cet élément interactif.
Ok.
Donc là, voilà, l'exemple qu'il donne, là, tu vois, c'est pour montrer le paragraphe ou le cachet. Juste avec quelques tags, tu vois.
Par contre, là, moi, je vois bien la puissance de cet outil-là. Par contre, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du WordPress. Par contre, là, faut pas être intégrateur, hein. Là, tu es obligé d'être vraiment développeur pour intégrer ça dans ton WordPress, quoi. Donc, hashtag toutes les personnes qui disent que quand tu fais du WordPress, tu fais pas du web ou t'es pas développeur. Là, si tu joues à ça, tu as déjà un niveau de compréhension du code et d'intégration et de développement, hein, clairement. Là, c'est super poussé, quoi. Super poussé.
Oui, de toute façon, il y a des vrais développeurs sur WordPress, et il y a des choses, et on peut pousser les choses quand tu maîtrises vraiment l'outil, tu peux faire des choses très très intéressantes. Ouais, c'est ça, en fait, c'est comme Alpine.js, en fait. C'est ça que j'avais pas l'équivalent.
Le parallèle.
Alpine.js, ou voilà, le parallèle, où on va mettre des tags, machin, qui vont rendre l'élément interactif. Bah là, c'est le même principe, en fait, sauf qu'ils ont, voilà, mis à leur sauce un peu WordPress, mais c'est vraiment le même principe, quoi.
Par contre,
Et c'est intégré. Ouais.
c'est
Ouais, c'est
natif
natif.
maintenant dans WordPress.
Ouais,
C'est intégré
c'est
de manière
natif, faut le
native.
déclarer. Enfin, c'est déclaratif, faut que tu le mettes, tu le déclares pour dire que ça fonctionne. C'est pas forcément embarqué par défaut, mais c'est disponible. Tu mets un attribut qui le rend disponible, et après tu peux jouer avec, etc. Donc c'est hyper intéressant. Je pense que ça va ouvrir pas mal de possibilités pour faire des choses interactives sans coder le moindre JavaScript.
Par contre, ce que je vois déjà, c'est ça perturbe un petit peu la manière de coder et ça bouge un peu les lignes. Donc, quand ça bouge les lignes, bah, ça veut dire qu'il faut s'y mettre, qu'il faut s'y pencher vraiment. Il faut prendre le temps, un, de lire la doc, mais de l'intégrer et de voir tout le potentiel. Donc, avant que ça devienne mainstream, je pense que il y a un petit peu de temps qui va se passer, quoi. Mais potentiellement, on peut faire des trucs beaucoup hyper stylés et sans mettre 20 000 plugins, du plugin, du plugin, du plugin. On fait ça
Ah.
en natif directement, quoi.
Ouais.
Et ouais. Et ouais.
Voilà.
On est d'accord. Allez, on bascule sur un autre outil de Ultimate Server Management Tools. C'est comme ça qu'il l'annonce. Ça s'appelle Vito. C'est de Vito Deploy. Clairement, qu'est-ce que ça amène en plus sur le déploiement?
Alors, c'est un outil open source qui te permet. En fait, il y a déjà des outils qui existent comme ça, hein, qui sont disponibles chez Laravel. Il y en a un, etc. Le principe de ces outils-là, c'est que tu branches un serveur dessus, et ensuite, lui, il va te permettre en fait de gérer ton serveur, d'installer ce qu'il y a besoin, etc. De faire du cron, etc. Enfin, voilà, donc, tu as un dashboard qui permet de gérer ton serveur sans mettre les mains dans le cambouis. Il est capable de t'installer un Nginx, être capable de t'installer un PHP, tout ça sur ton serveur Linux, à
Donc,
distance. Voilà.
ok, donc en fait, c'est un peu un dashboard avec une interface graphique
Ouais.
pour administrer ton serveur, c'est ça?
Voilà. Ça te
Ok.
permet de tout administrer et après, normalement, ça te permet aussi de déployer tes applications directement sur le serveur et de voir ce qu'il y a déployé, etc. Alors, j'ai pas tout lu la doc, etc. Mais c'est ce qui se, enfin, c'est ce... les outils payants font déjà ça. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'ils expliquent. Voilà, create et manage cron job, etc. Deploy your PHP application. Voilà. Et ça permet vraiment de manager tout le serveur et de déployer tes applications.
Donc
Et
en
donc, il y a
fait,
beaucoup de services payants comme ça.
ok, c'est un peu en fait, au lieu de passer par des services type Netlify ou Vercel qui gèrent la partie front, même s'ils font aussi du back, mais qu'importe, là en fait tu vas installer ce système-là sur ta machine que tu as pris sur voilà, Ocean, Digital Ocean ou Scaleway ou OVH ou ce que tu veux, tu as ta machine. Tu exécutes le script, tu viens installer Vito Deploy et tu as une interface et là tu peux administrer bah, aussi bien des Docker, tes SSH, tes clés
Bah.
SSH et tes...
Non, en fait, il faut après, il faut que tu branches un provider. Une fois que tu as cette
Ok.
interface, que tu l'installes, comme tu dis, tu l'installes sur un serveur. Voilà. Tu as un serveur,
Ok.
tu l'installes dessus. Après, tu branches des providers, Amazon, etc., etc., ceux qui sont compatibles. Et à partir de là, tu lui mets les clés SSH et tout. Et après, lui, il est connecté et il gère ta machine.
Ok.
En fait, c'est ça.
Excellent.
Donc ça, c'est
Excellent.
pas mal du tout. Et cet outil est open source. Donc ça te permet pour, si tu veux gérer plein de serveurs, ou même un seul, bah, de l'installer et puis de gérer tes serveurs comme tu veux. Tu vois. Mais tu es libre de faire ce que
Nice.
tu veux.
Nice. Ça me fait quand même penser un peu à Coolify qu'on avait parlé.
Ouais,
Ça
ouais, ouais.
se rapproche un peu
Ouais,
du
totalement.
système.
Ouais. Coolify, après, qui est peut-être plus orienté application JavaScript, etc., je pense.
Ouais, tu
Non?
peux faire tourner tout
Pas
ce que
trop.
tu veux hein, dessus.
Ouais, tu peux tout faire tourner.
Ouais.
Bah, ça, c'est
Et...
plutôt orienté, je pense, PHP, mais ça a l'air de faire. Ouais, bon, enfin, voilà. C'est...
Après, je pourrais faire un retour d'expérience sur Coolify.
Ouais,
Là,
carrément.
j'ai passé un peu plus de temps et en fait, j'ai monté tout mon système de staging là-dessus. Parce que voilà, pour l'instant, c'est pas critique. Donc, ce qui me permet d'éviter de payer trop des machines et tout ça. Et c'est quand même puissant, c'est quand même top. Donc, mais on fera un retour une fois que j'aurai passé encore plus de temps et un peu poncé le truc jusqu'au bout. Donc,
Ouais,
mais très très
bah
bon.
Coolify, ouais, Coolify, je le vois de plus en plus passer dans les commentaires, tout ça. On en avait parlé il y a très longtemps au début quand il était. Je pense qu'il a l'air d'être devenu un peu plus mature et. Ouais, ce
Après,
serait bien d'avoir un retour. Ouais.
le gros step, ça va être la prise en charge de Kubernetes. Et pour
Ah.
l'instant, le gars, il travaille dessus, mais
Aïe, aïe, aïe.
pour administrer juste des petites apps, tout, franchement, c'est top. Tu crées ton Redis en 2-2, tac-tac, t'as DB. Très très rapidement pour faire du micro-test un peu en condition staging tout top. Mais on prendra le temps d'en parler
Est-ce
une
que tu
prochaine
crées ton
fois.
Redis open source ou la version payante?
Oh, allez, vas-y.
Assez
C'est un
tactique.
autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La suite. Clairement, c'est quoi V-jeu?
Bah,
C'est
VGeux, tu le
quoi?
connais, le fameux développeur français qui bosse chez Facebook. En fait, tu sais, comme il s'ennuie, il lance des petits défis comme ça. Et donc là, c'était un défi de créer un jeu de mini-golf.
Ok.
Donc voilà, et j'ai vu passer ça comme ça. Je fais ah ouais, bon, d'accord. Il a donné 100 dollars au premier, je crois. Voilà, c'était juste symbolique. Mais en fait, quand tu vas voir le premier jeu, il est juste hallucinant. Voilà, lui, c'est le premier, voilà, c'est le vainqueur.
Ok.
Il y a très très peu de code, 1099 bytes de code en fait. Et si tu vas dans le GitHub, tu verras, tu pourras jouer avec. Enfin, je sais, enfin, moi, ça me fait
Directement?
halluciner. Ouais,
Et quoi,
il y a si tu vas dedans.
c'est un jeu en ligne?
Ouais, dans le navigateur.
Ok.
Vas-y, va voir, hein, tu vas. Enfin, moi, j'ai halluciné. T'as le play,
Play the
voilà,
game.
tu vois. Et voilà.
Et
Et en
ok.
fait, c'est 1099 bytes de code pour faire ça. Et moi, ça me fait halluciner. Je
Alors,
sais pas comment ils font, les mecs.
malheureusement, excuse-moi mon inculture totale, mais c'est ultra ultra léger et
Ouais.
c'est vraiment efficient total.
Bah après, moi, je suis pas assez bon pour qualifier le code s'il est bon ou pas. Mais en fait, tu vois, déjà, tu as le système pour la force de tir, l'orientation. Ensuite, quand tu mets le trou, tu vois, il te rajoute des obstacles au fur et à mesure. Enfin, le truc, j'ai envie de dire, c'est fou, quoi. Si tu vas voir le code dans le code source, là, il y a quasiment, enfin, il y a très peu de code. Il y a deux fichiers, je crois.
Ok.
Ça me fait halluciner, en fait.
Les gars sont
Voilà.
forts, quoi. Les gars sont
Bah, les
forts
gars
et
sont trop forts en fait.
ouais. Et pour gérer ça directement. Et tu vois le code source directement à côté, quoi.
Ah ouais, ça marche dans un
Propre.
navigateur sans rien quoi.
Propre.
Voilà.
Propre. Total. Nice. Yes. Tac tac. On finit peut-être. Sur
Tendance, c'est les deux,
tac
l'avant-dernier.
yes turbo peut-être
Alors cette tendance, alors je voulais parler de ça. C'est une tendance qui est en train d'émerger au niveau du dev, principalement alors des dev back entre guillemets, parce que est-ce que ça existe encore des dev back purs et durs. Enfin, en gros des gens qui font des applications avec du Symfony, avec du Ruby on Rails ou des choses comme ça. Il y a une tendance qui est en train d'émerger, c'est de, comme on en a parlé déjà avec WordPress, tout ça, c'est d'arrêter en fait de compiler du JavaScript, d'enlever le tooling, etc. Et en fait, il y a plein d'outils qui sortent comme ça. Donc celui-là, on avait déjà parlé de Turbo, qui te permet en fait, via une librairie que tu installes, de faire du JavaScript, du single page app, mais sans faire le moindre code de JavaScript, ou quasiment, enfin très très peu.
Très peu.
Et il est capable de voilà de prendre les liens en fait de l'application et de transformer ça en fait de remplacer en fait le via JavaScript de remplacer la navigation et ça remplace le contenu etc. automatiquement sans que tu fasses rien du tout. Donc voilà et c'est une tendance qui est vraiment en train d'émerger. En fait
Donc.
les devs PHP sont de plus en plus allergiques au JavaScript
Ouais.
et donc voilà.
Mais ce qui peut largement se comprendre. Et c'est pour ça que on a Guillaume Bridet qui était venu nous parler justement de Ruby on Rails, qui lui est parti pour sa boîte à New York et qui a fait un talk sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'une SPA? Et petit meet-up que vous pouvez
À Lyon,
retrouver sur le
ouais,
sur sur
vidéo super. Alors ouais, normalement il était parti à New York, mais a priori il est revenu sur Lyon où il revient de temps en temps. Il y avait un meet-up sur Lyon là, donc qui est en mars. Et vidéo super intéressante parce qu'il montre plein d'exemples en fait avec Turbo. C'est assez bluffant en fait parce que il a vraiment, enfin par exemple un tableau qui se met, tu peux trier, etc. Changer le statut de certains trucs automatiquement, sans faire de JavaScript, etc. Donc c'est très bluffant et il prouve vraiment que oui, on peut faire du JavaScript ou des applications assez poussées sans faire de JavaScript, des SPA, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un peu la tendance actuelle d'essayer de se passer un peu de tous ces frameworks React, etc., qui sont compliqués pour utiliser des outils comme ça, comme Alpine.js, Turbo, etc.
Ouais. Et puis surtout, tu reviens sur le bon vieux code, non pas à l'ancienne, mais sur le modèle MVC qu'on connaît, qui est éprouvé et qui a perdu en popularité par l'arrivée de tous ces frameworks front, mais qui nous oblige à splitter le front du back avec une API et tout ça. Ouais. Alors que là, en fait, on revient sur du monolithique. Et si en plus, on a tout l'avantage du monolithique avec la flexibilité et l'interactivité du JavaScript, super intéressant.
Super. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on est obligé, enfin, quand dans une application classique, t'as le back et le front, tu fais des API qui connectent, machin, qui se parlent. Là, en fait, t'es en monolithique, t'as le back et le front, et en fait, t'as qu'un seul code, et ça fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est une question de simplification. Donc, c'est peut-être le mot de 2024, simplification.
Ouais, essayons de simplifier, ça serait, ça, c'est bien, parce que on est quand même sur des technos où on ne fait que rajouter et empiler des technos, des librairies, des concepts. Et c'est vrai que parfois ça peut être un peu déroutant et compliqué, alors qu'à la base on veut faire quelque chose de simple, quoi. Et on est obligé, ouais, de passer par un tooling de maboule pour faire, je me rappelle toujours du même, où pour faire un contact form, quoi, on est obligé de faire je sais pas combien de lignes de code, des trucs super compliqués, quoi, alors que à la base, c'est juste un formulaire de contact, quoi.
C'est juste uniquement HTML. Ça. Ouais.
Yes. Nice, Patrick. Tout bon. Tout bon pour moi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet épisode ?
Non, bah écoute, merci d'avoir écouté. Et on se retrouve rapidement cette fois.
Oui, promis. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ouais. Mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Si vous êtes d'accord, dites-le nous aussi. Et on vous dit à bientôt et à très très vite. Ciao, ciao.
Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast, www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.